Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce soir, encore une fois, nous allons parler de l'armée invisible de Dieu, les anges. Et je veux que vous ayez votre Bible, un crayon et du papier à portée de main. Car il va y avoir beaucoup de choses que vous aurez envie de lire et d'écrire, et nous n'aurons pas le temps de parler de certaines choses, mais seulement le temps de les lire. Maintenant, que savons-nous au sujet de ces êtres fantastiques? Eh bien, dans notre dernière étude, nous avons commencé à les regarder, et nous avons fait une idée de qui ils sont. Nous avons parlé de l'existence des anges, l'origine des anges, la nature des anges, et nous avons essayé de définir pour vous qui sont les anges. Maintenant que je vous ai donné toutes ces informations sur leur existence, leur origine et leur nature, ce soir je vais ajouter une chose qui, je pense, se trouve bien dans de nombreux livres et sources. C'est qu'il y a un autre ange très spécial, qui ne correspond pas du tout au moule de tout le reste. En fait, cet ange ne ressemble à aucun autre ange. Il est appelé l'ange du Seigneur ou l'ange de l'Éternel. Il est tout à fait unique. Nous ne trouvons cet ange que dans l'Ancien Testament. Il n'est jamais apparu dans le Nouveau Testament. Il commence à apparaître avec Abraham et il cesse d'apparaître dans les Écritures avec Zacharie. Donc nous pensons qu'il doit être très très spécial. Permettez-moi de vous le présenter. Regardons Genèse chapitre 16, et cela va compléter notre compréhension des anges en termes de qui ils sont. Très bien, Genèse chapitre 16 verset 7. Le messager du Seigneur. Et la Bible nous l'introduit pour la première fois. Le messager du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je me suis enfuie pour échapper à Sarai, ma maîtresse. » Le messager du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. » Le messager du Seigneur lui dit, « Je multiplierai ta descendance. » Maintenant, voici la promesse destinée à Agar, la promesse à Ismaël. Très bien, allons-y. Verset 10. Le messager du Seigneur lui dit, « Je multiplierai ta descendance. On ne pourra pas la compter tant elle sera nombreuse. » En d'autres termes, la promesse est venue à la prospérité d'Ismaël, qui aussi serait aussi vaste comme la promesse de la prospérité d'Isaac, semence d'Abraham. Le messager du Seigneur lui dit, « Te voici enceinte. Tu vas mettre au monde un fils, et tu l'appelleras du nom d'Ismaël. Dieu entend. Car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. » Elle l'appela Seigneur, celui qui avait parlé. Maintenant, notez bien cela. Toi, Dieu, qui me vois. Maintenant, voici une chose intéressante. Elle appelle cet ange du Seigneur Dieu. Ouvrez à Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu à Horeb. Un ange lui apparut. Non, l'ange, quel ange ? L'ange du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant, du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Écoutez, le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. Maintenant, le verset 2 dit que l'ange du Seigneur était dans le buisson. Le verset 4 dit que Dieu l'appela du milieu du buisson. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Verset 6. Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il avait peur de regarder Dieu. Encore une fois, l'ange du Seigneur est appelé Dieu. Je voudrais que vous regardiez pendant un instant Juges au chapitre 6. Juges chapitre 6, verset 11. Puis l'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, l'Abiezrite. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui dit, « Pardon, mon Seigneur. Maintenant, ici encore, l'ange du Seigneur se réfère au Seigneur. » Regardez le chapitre 13, de Juges au verset 21. Ainsi l'ange du Seigneur cessa d'apparaître à Manoa et à sa femme. Alors Manoa sut que c'était l'ange du Seigneur. Manoa dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu, qui ? Dieu ! Maintenant là encore, et je vous ai montré quatre incidents distincts, c'est un ange spécial, appelé l'ange du Seigneur, qui est assimilé à quatre reprises à Dieu. Vous dites, « Eh bien, est-ce juste Dieu ?» Eh bien, nous allons le découvrir. Regardez dans Zacharie. C'est vers la fin de l'Ancien Testament, à côté du dernier livre. Zacharie, chapitre 1, verset 12. Le messager du Seigneur reprit. Écoutez cela. Le messager du Seigneur reprit. Seigneur, Yahweh, des armées. Maintenant, voici une conversation qui a lieu entre le Seigneur des armées et l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur est défini comme Dieu. Regardez le chapitre 3, Zacharie, verset 1. Il me fit voir Josué, le grand prêtre, debout, devant le messager du Seigneur, et l'adversaire debout à sa droite pour l'accuser. Le Seigneur dit à l'adversaire, « Que le Seigneur te rabroue !» Eh bien, que c'est intéressant. Le Seigneur dit, « Le Seigneur te rabroue !» Encore une fois, voici une conversation entre l'ange du Seigneur et Dieu. Maintenant vous dites, « Qui est l'ange du Seigneur ?» Eh bien, je crois que c'est la deuxième personne de la Trinité, nul autre que le Seigneur Jésus-Christ, comme il est connu dans le Nouveau Testament. Et là, vous avez une conversation entre la deuxième personne de la Trinité et la première personne de la Trinité. Vous avez ce que l'on appelle une christophanie ou une théophanie, une apparence pré-incarnate du Christ. Maintenant, notez ceci. Le seul membre de la Trinité qui se manifeste est la deuxième personne. Dieu est un esprit, et la Bible dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est un esprit. Il ne s'est jamais manifesté. Il n'a jamais été vu. La seule personne de la Trinité qu'il se manifeste est la deuxième personne. Dans l'Ancien Testament, vous avez une révélation préincarnée, une manifestation préincarnée du Christ comme l'ange du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, il apparaît comme Dieu dans la chair humaine, l'homme Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'ange du Seigneur n'apparaît dans la Bible qu'après le livre de Zacharie. Parce qu'il est maintenant le Fils incarné dans le Nouveau Testament. Il n'est nul autre que Jésus-Christ. Et si vous deviez tracer le ministère de cet ange, l'ange du Seigneur, vous constateriez que son ministère tout au long de l'Ancien Testament, et vous pouvez en faire une étude, est en parallèle avec le ministère de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament vers son peuple. Par exemple, dans l'Ancien Testament, l'ange du Seigneur donne la révélation. Il révèle la parole de Dieu. Il appelle... C'est celui qui a appelé Moïse, c'est celui qui a appelé Gédéon, c'est celui qui a appelé Samson, et comme le Christ appelle dans le Nouveau Testament, il est le libérateur, il délivre son peuple par les hommes qu'il a appelés, Moïse, Gédéon, Samson. Comme Christ, il est le libérateur, et par son œuvre, il a délivré son peuple, il est un protecteur. Dans le psaume 34, verset 7, il dit, « Quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et le Christ dans le Nouveau Testament est celui qui nous entoure et nous protège. Il est aussi un intercesseur. Dans Zacharie 1, nous trouvons l'ange du Seigneur qui intercède pour le peuple d'Israël. Le Christ est notre intercesseur dans le Nouveau Testament. Il est notre avocat dans Zacharie chapitre 3. L'ange est celui qui se tient devant Dieu, qui défend les croyants contre les attaques de Satan. Précisément ce que fait le Christ dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Genèse 22, l'ange du Seigneur confirme l'alliance avec Abraham. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est celui qui a scellé l'alliance avec son sang. Dans l'Ancien Testament, comme nous le lisons dans Genèse 16, l'ange du Seigneur réconforte Agar. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est notre consolation. Maintenant, vous voyez ici la manifestation du Christ avant son incarnation. Ceci est très important. Car il nous prouve, sans l'ombre d'un doute, que la Trinité a toujours existé comme étant la Trinité. Et ce n'est pas Dieu qui joue les différentes parties dans l'histoire. Il est toujours trois en un. Maintenant, après avoir compris cela, vous avez la somme des informations de base sur les anges. leur nature, leur origine, leur existence. Maintenant, permettez-moi de vous emmener à la question suivante. Non pas qui sont-ils, mais que font-ils? Qu'est-ce que les anges font? Que font-ils maintenant? Nous allons y arriver. Regardons le ministère des anges. Il y a un schéma très simple que nous pouvons suivre, c'est très clair. Qu'est-ce que les anges font envers Dieu, envers le Christ, envers les croyants et envers les non-croyants? Quel est le ministère des anges envers Dieu, tout d'abord? Eh bien, premièrement, je vais vous donner plusieurs divisions. Les anges sont des ministres de louange. Dans Ésaïe 6, les anges, les séraphins, quand ils voient la vision du Seigneur, disent « Saint, 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 ils adorent Dieu ». Dans l'Apocalypse, au chapitre 4, et ici, nous allons participer à leur adoration précisément. Dans Apocalypse 4, verset 6, je le lis. « Devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. » Au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants pleins d'yeux devant et derrière. Ceux-ci sont très semblables aux descriptions angéliques données dans Ézéchiel. Ils commencent à les décrire. Ils parlent de leurs ailes. Et tout cela dans le verset 8. Et il dit qu'ils disent nuit et jour, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » C'est cela l'adoration. Verset 9. Les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais. Maintenant, je crois que ce que vous avez là est l'adoration angélique. Le ministère commence pour les anges avec l'adoration de Dieu. Voilà, je crois que leur ministère principal est celui d'adorer Dieu, juste adorer Dieu. Dans le chapitre 5 au verset 8, nous voyons encore une fois les quatre êtres vivants. Et je crois qu'ils sont probablement des chérubins qui se joignent aux 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau. Chacun d'eux a des harpes et des bols pleins d'encens et ainsi de suite. Et au verset 9, ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et au verset 11, je regardais. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers de fois 10 000, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne », etc., etc. Maintenant, c'est le début de leur ministère envers Dieu, à cause de la valeur infinie de Dieu, à cause de la gloire infinie de Dieu, à cause de son excellence et à cause de sa beauté. Alors ils le louent sans cesse et pour toujours. Je pense que tous les anges le font, et qu'il y a probablement un certain nombre mis de côté qui ne font rien d'autre. Deuxièmement, les anges ne sont pas seulement des ministres d'adoration, mais de service. Et cela tombe dans plusieurs catégories. Les anges sont des hommes de service. D'abord le service sacerdotal. Regardez Hébreux 1, verset 7. Et c'est une leçon de théologie, de sorte que vous allez bien comprendre si vous vous accrochez. Je vais vous donner une doctrine solide. Hébreux 1, verset 7. Pour les anges, il dit, « Il fait de ses anges des vents, de ses serviteurs un feu flamboyant. » Votre Bible pourrait dire des esprits, mais le même mot peut être traduit par vent. Je pense que ce serait mieux. Le mot pour les serviteurs est un mot grec, le liturgos, à partir duquel vient le mot liturgie. Et cela concerne le culte, le service sacerdotal. Ils se réfèrent à quelque chose qu'ils font en présence de Dieu. Et il est dit qu'ils sont comme le vent. Et je pense que cela indique la vitesse. Et ils sont comme le feu. C'est la ferveur et l'intensité. Quel que soit ce service sacerdotal, ils sont comme le vent et le feu dans la présence de Dieu. Et ils lui rendent le service sacerdotal dans sa présence. Maintenant, je ne sais pas ce que tout cela signifie. Je sais juste que c'est la signification de ce verset dans son sens originel. Il lui offre un service sacerdotal. Ils sont appelés serviteurs, un mot unique ayant à voir avec l'activité sacerdotale. Et le sacerdoce signifie qu'ils se tiennent en adoration devant le trône de Dieu. D'autre part, en tant qu'homme de service, ils offrent non seulement un service sacerdotal, mais ce sont des messagers personnels. Paul a mentionné plus tôt que le mot « angelos » signifie « messager », et il avait raison. Et le mot hébreu « malak », qui est le mot « ange » employé dans l'Ancien Testament, signifie aussi « messager ». Donc, fondamentalement, les anges sont des messagers. ils fournissent un service de messager céleste. Dans le psaume 103, au verset 20, il est écrit « Bénissez le Seigneur, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en écoutant sa parole. Ils sont très forts et ils sont suprêmement définis comme étant obéissants. Ils exécutent sa parole. En fait, c'est évident, ils se tiennent autour de lui en attendant les ordres. Apparemment, ils attendent jusqu'à ce que Dieu donne des ordres spécifiques et les envoie en expédition. » Luc, chapitre 1, verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Vous savez ce que cela signifie apparemment ? Gabriel se tient dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il obtienne ses ordres. Et puis il est envoyé pour les exécuter. Vraiment une belle pensée. Et bien sûr, Gabriel a été utilisé ici dans ce chapitre pour apporter le message à Joseph et à Marie à propos de la venue de Dieu dans la chair. Les anges sont ses messagers. Au mont Sinaï, quand Dieu apporta la loi, Dieu est descendu et a écrit avec son doigt dans la pierre. Vous vous rappelez, la loi de Dieu grave les 10 commandements dans la pierre. Galates 3, verset 19. Alors pourquoi la loi ? Quelle est la loi ? Nous n'allons pas entrer dans cet argument. Il suffit de mentionner un seul point. Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Maintenant écoutez, elle a été promulguée par l'intermédiaire des anges et au moyen d'un médiateur. Maintenant vous dites, attendez une minute, que voulez-vous dire qu'il a été ordonné par des anges ? Quel rôle ont les anges là-dedans ? Eh bien, allons un peu plus loin. Regardez le livre des Actes au chapitre 7. Maintenant, nous avons des anges impliqués dans la transmission de la loi sur le mont Sinaï. Dans Actes 7, au verset 38, c'est lui qui, en parlant de Moïse, dans l'assemblée du désert, ou l'Ecclésia, le groupe appelé dans le désert, avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Ici, nous avons une autre situation sur le mont Sinaï, une autre indication de l'Écriture, qu'il y avait des anges là-bas. Le verset 52 parle de la loi, des prophètes. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi communiquée par les anges. Regardez Hébreux, chapitre 2, verset 2. Et nous allons mieux comprendre. Il dit ceci. En effet, si la parole prononcée par des anges s'est confirmée, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, etc. Maintenant ici, il dit que la parole annoncée par des anges a été constante, et il fait référence à la loi. En d'autres termes, si vous ne pouvez pas vous en sortir avec la désobéissance à la loi, comment pensez-vous que vous allez pouvoir vous en sortir avec la désobéissance à l'Évangile ? Maintenant, vous avez ici au moins 5 références, ou 4 qui parlent du fait que les anges sont impliqués dans la transmission de la loi. Apparemment, dans Exode, chapitre 31, verset 18, Dieu a écrit avec son doigt, puis les anges ont livré les tablettes à Moïse. Maintenant, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Juifs considéraient si hautement les anges, parce que les anges ont fait partie de la transmission de la loi. Ils étaient des messagers. Parfois, Dieu leur demande de transmettre des messages verbalement, ou il les envoie avec un gros morceau de pierre, et ils sont impliqués les deux fois. Moïse est descendu la première fois, s'est mis en colère et a rompu des tablettes. Il a dû revenir en arrière, et Dieu a dû réécrire à nouveau. La deuxième édition a été livrée par des anges, la première édition aussi. Et les anges offrent le service sacerdotal envers Dieu. Et ils offrent également un service de messagerie pour Dieu. Troisièmement, et cela est très intéressant, ce sont des agents qui exécutent les ordres de Dieu dans le monde. Dieu veut mener à bien certaines choses gouvernementales, et ils sont occupés à faire cela. Par exemple, ils retiennent le mal. Nous pensons toujours à l'Esprit Saint comme celui qui restreint, et je pense que c'est vrai, le Saint-Esprit restreint. Mais quelquefois les anges retiennent les gens aussi. Je veux dire, qu'ils empêchent littéralement et physiquement les gens de faire le mal. Considérant que la venue par l'Esprit Saint pourrait être plus interne, un ange pourrait arrêter quelqu'un physiquement. Il suffirait de les arrêter dans leur voie. Vous dites, qu'est-ce qui vous donne cette idée ? Eh bien, dans Genèse 18, il y a une réunion des anges là avec Abraham. Plus tard, les anges se sont dirigés vers Sodome. Et au chapitre 19, ils arrivent à Sodome, verset 1. Les deux messagers arrivèrent à Sodome sur le soir. Or, Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Maintenant, il y avait un peu d'intérêt dans la ville parce que la ville était consacrée à l'homosexualité. Les hommes dans la ville ont vu ces deux beaux anges et dirent « Attrapons ces gars ». Et ils ont dit « Eh bien, cela ne va pas arriver comme ça ». Le verset 10. Les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Les anges ont retenu le mal. Les anges les ont frappés d'aveuglement. Maintenant, je ne sais pas comment ils ont fait, mais cela aurait pu être avec seulement deux doigts angéliques, et je ne sais pas si c'était permanent, mais ils l'ont fait. Donc les anges retiennent le mal d'une manière très physique, d'une manière très physique. La deuxième chose qu'ils font en tant qu'agents qui exécutent les ordres de Dieu dans le monde est de contrôler les éléments naturels. Dans l'Apocalypse au chapitre 7, au verset 2. « Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. Maintenant, ces anges se préparaient pour amener les fléaux de l'Apocalypse sur le monde, et ils avaient le contrôle des forces naturelles. Ils sont sur le point de changer la mer en sang, de tourner l'eau douce en sang, de tuer l'herbe et les fleurs, de créer le chaos dans les cieux pour que les étoiles tombent. Ils contrôlaient les éléments. Ils ont réussi à faire tomber de grands, d'énormes grêlons sur la terre. Ils contrôlaient les éléments. Dans Apocalypse 8 et 9, vous avez l'ange qui sonne la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Le verset 8. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Apparemment une sorte de météorite. Et au verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme un flambeau, et cela pollue l'eau douce. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Verset 12. Et voici ces anges, et des choses terribles se produisirent en jugement, comme une réponse à la puissance des anges sur les éléments. Apocalypse 16. Le deuxième ange répandit sa coupe sur la mer. Celle-ci devint du sang, comme celui d'un mort. Et tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Verset 8. Le quatrième répandit sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les êtres humains par le feu. Cinquième ange, verset 10. Le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut obscurci. Les gens se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne revinrent pas de leurs œuvres. Le sixième ange versa sa coupe sur l'Euphrate, et l'eau a séché. Maintenant, vous pouvez voir que les anges ont du pouvoir sur les éléments, quand il le leur est donné par Dieu, et ils vont provoquer les choses les plus terribles dans la tribulation, suite à ce pouvoir que Dieu leur donne. Ils retiennent le mal, et ils contrôlent les éléments naturels lorsque Dieu le désire. Ainsi, en gouvernant ou en aidant Dieu à gouverner, ils contrôlent les nations. Derrière la scène humaine, les gens dans notre pays comme dans tous les pays du monde, il y a un conflit spirituel. Les démons se battent pour le contrôle de notre pays, de notre société et le but de l'histoire, et les anges vont à l'encontre de ce contrôle. Dieu a des saints anges actifs derrière la scène des gouvernements. Tout ce que vous avez à faire est de lire Daniel, chapitre 4. Ce sera un point de départ pour vous donner l'idée de ce qui se passe vraiment. Daniel, chapitre 4. Permettez-moi de vous lire quelques versets. Vous n'êtes pas obligé de les regarder, de les écrire. Daniel, chapitre 4, versets 13 à 17. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime atteignait le ciel, est convoyé de toute la terre. Maintenant, l'un des titres par lesquels les anges sont appelés est « veilleur ». Les anges sont appelés veilleurs. Ils surveillent. Verset 17. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime atteignait le ciel et convoyé de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes sauvages, et dans les branches duquel les oiseaux du ciel demeuraient, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel, et dont le pouvoir s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Si Dieu dirige tout, même les pires hommes dans le gouvernement, c'est que Dieu l'a permis, et les anges veillent sur ses gouvernements, sur la réalisation du plan de Dieu. Ils sont actifs dans le déroulement de l'histoire, les saints anges. Maintenant, nous savons que les démons sont actifs, mais les saints anges de Dieu sont aussi actifs. Alors, comment servent-ils Dieu? Premièrement, par le service sacerdotal. C'est leur aspect de louange. Et puis, par un service de messager. Et puis, en gouvernant, ils aident Dieu dans l'accomplissement de sa volonté dans le monde. Et ce double ministère de louange et de service doit également inclure le jugement, que nous verrons dans un peu de temps. Maintenant, d'autre part, le ministère des anges est un service non seulement vers Dieu, mais vers le Christ. Et cela doit être une des études les plus belles et les plus significatives que vous ne ferez jamais. Comment font les anges, ou comment font-ils pour servir Jésus-Christ? Et je peux comprendre cela, cet aspect des anges. Tout d'abord, ils le servaient à sa naissance. Ils étaient impliqués dans presque tout ce qu'il a fait. Eh bien, avouons-le, s'il était l'ange du Seigneur, il était le bon commandant-chef des armées angéliques. En fait, à un moment de sa vie, il a dit « Si je le voulais, je pourrais appeler autant de légions d'anges que je veux. Vraiment ? Pourquoi ? Parce qu'il était le commandant-chef. 12 légions d'anges sont une goutte d'eau. Si un ange peut tuer 185 000 Assyriens, imaginez ce que 12 légions feraient. Et ils étaient là pour s'occuper de lui. Il était l'ange du Seigneur. Il avait son ministère parmi eux. Tout d'abord, ils étaient là à sa naissance. Quand vous lisez l'histoire de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans Luc au chapitre 1, vous le voyez clairement. Je le lis. « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth. Maintenant, Dieu envoie l'ange Gabriel, qui est en attente des ordres. Il vient zoomer du ciel. Il zappe cette Vierge Marie et l'ange dit « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce. » Le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. Cela signifie qu'elle ne pouvait pas saisir tout ce qui se passait. Elle dit, « Quel genre d'introduction est-ce ? Salut, Marie, tu es fortement favorisée, bénie d'entre les femmes. » L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » La première chose que les anges ont fait pour la naissance du Christ concernait sa prédiction. Ils étaient les révélateurs de Dieu. Ils ont été les premiers à raconter à Marie et Joseph que l'enfant allait venir, que Dieu viendrait dans le monde. Ils l'avaient prédit. Et alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Quand il est arrivé d'autre part, ils l'ont annoncé. Cela a été passionnant. Ils l'ont annoncé. Et c'est dans Luc, au chapitre 2, j'aime cela. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Maintenant, les bergers sont des gens tout simples. Ces gars-là, vous savez, ils n'ont pas vu beaucoup de foules angéliques atterrir dans leur domaine. Ils passent là-bas leur temps avec les moutons. C'est tout ce qu'ils ont jamais vu. Ils veillent sur leurs troupeaux la nuit et le jour. Et tout d'un coup, un ange du Seigneur vient à eux. Et ce n'est pas l'ange du Seigneur, ne confondez pas. Le rendu correct, c'est « Un ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. » Ils furent saisis d'une grande crainte. Ceci est très différent des circonstances qu'ils connaissaient jusque-là. Et l'ange leur dit encore, « N'ayez pas peur. » Pourquoi les anges disent toujours cela? Parce que voir un ange était une chose effrayante. Quand il se manifestait, c'était remarquable. « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Pour nous, l'ange continue. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. » Verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. Ici, tout le ciel est plein d'anges glorieux, et ses bergers sont debout à regarder tout cela. C'est incroyable. » Les anges non seulement prédisent, ils annoncent, ils étaient là à sa naissance. Deuxièmement, ils étaient là pendant sa vie. Avez-vous déjà étudié la vie de Jésus-Christ pour voir ce que les anges ont fait pendant son ministère dans le monde? Ils étaient très occupés à prendre soin de lui. Je pense que l'un des plus beaux concepts, l'une des plus belles caractéristiques de Dieu est la tendresse et le soin que Dieu a montré envers Jésus-Christ par l'expédition des anges pour le servir. Si je vous le dis, c'est parce que cela me donne une telle confiance que Dieu envoie également ses anges pour prendre soin de moi, parce qu'il me voit, en Christ, comme un être significatif, comme le Christ. Mais pensez-y, dès les premières années après la naissance du Christ, dans Matthieu 2, verset 19, après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, en Égypte. Voici ce qu'il a dit. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie de l'enfant sont morts. Il est temps de partir, vous ne devez plus craindre. » Si vous revenez à Matthieu, au chapitre 2 et au verset 13, « C'était un ange du Seigneur qui est apparu. Il lui a dit d'aller en Égypte en premier lieu, de sortir de la voie d'Hérode qui voulait le détruire. Donc l'ange les a avertis de partir. Et l'ange est revenu pour dire quand il était temps de revenir. Les anges sont impliqués dans la protection et la prise en charge de Jésus dans sa vie. » J'aime Matthieu 4, verset 6. Il est dit au milieu du verset, « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet. » C'est dans la bouche de Satan. C'est lui qui l'a cité, mais néanmoins c'est vrai. Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Le diable lui dit, « Eh, tu peux sauter du haut du temple parce que tu as une merveilleuse promesse, et ce sont les anges qui vont prendre soin de toi. » Il avait raison. Le diable a raison, vous savez, quand cela lui sert pour ses projets, pour faire comprendre son point de vue. Plus tard, dans Matthieu 4, au verset 11, après que Jésus ait été tenté pendant 40 jours, il est dit, « Alors le diable laissa, et des anges vinrent le servir. » Après 40 jours de jeûne, les anges sont venus. Vous dites, « Eh bien, que font-ils quand ils arrivent ?» Je n'en ai aucune idée, mais je suppose qu'ils avaient préparé un bon banquet pour lui. Je suppose qu'ils ont apporté de la nourriture et ont fait ce qu'il fallait faire pour le réconforter et répondre à ses besoins. Le servir. Dans Luc 22, verset 43, il est dit, et ici Jésus agonise à la fin de sa vie dans le jardin. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. Vous savez, c'est une chose passionnante de voir le ministère des anges envers Jésus. Vous savez, de temps en temps dans ma vie, je dis, « Seigneur, je pense qu'il est temps. J'ai peut-être besoin qu'un de tes anges vienne ici pour m'aider à tenir. Et je pense qu'il y a probablement des moments dans ma vie où ces anges m'ont rendu plus fort. » Donc, vous voyez, les anges ont soutenu Jésus dans sa naissance, et ils l'ont soutenu dans sa vie. Et j'aime cette pensée aussi. Ils ont assisté à sa résurrection. Saviez-vous qu'il y a quelque chose d'intéressant à propos de ce que je viens de vous dire? Avez-vous remarqué l'absence des anges à la croix? Vous voyez, c'est là qu'il aurait pu les appeler. Mais il ne l'a pas fait. N'êtes-vous pas heureux? Savez-vous ce qui serait arrivé s'il avait appelé 12 légions d'anges dans le jardin et anéanti tout le monde? Vous et moi, nous ne serions pas là. En fait, nous serions en enfer pour l'éternité. Je suis heureux que les anges aient eu un jour de congé ce jour-là. Maintenant, après sa résurrection, que faisaient-ils? Regardons Matthieu 28. Ils l'ont annoncé. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et pan, il y avait un tremblement de terre. Vous savez pourquoi il y avait un tremblement de terre? Maintenant, écoutez ceci. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Voilà pourquoi il y avait un tremblement de terre. Les anges font des tremblements de terre, parfois. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ils se sont éteints, comme des lumières. Mais l'ange dit aux femmes, « N'ayez pas peur, à nouveau. » Ils ont dû se présenter presque à chaque fois avec cette déclaration. « Ne crains pas, c'est seulement nous, tout est sous contrôle. Il n'est pas là, j'aime cela. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, regardez le lieu où il était. Et vous savez ce que les anges ont fait lors de la résurrection. Ils l'ont annoncé. » Ce sont de grands annonceurs. Ils avaient un message et ils l'ont donné. En fait, à l'intérieur de la tombe, selon Luc 24, se tenaient deux hommes vêtus d'habits blancs resplendissants. Ils étaient là, juste à l'intérieur de la tombe, montrant la tombe vide. Ils l'ont annoncé. Vous savez que les anges n'étaient pas là lors de la croix. Il y a le fait que les anges ne comprennent pas personnellement la rédemption, car ils ne l'ont pas expérimentée. Parce que les saints anges n'ont aucune raison de chercher la rédemption. Ils sont saints, et les anges déchus n'ont aucune possibilité de rachat, car ils étaient autrefois saints, et ils y ont renoncé. Donc, ils ne comprennent pas vraiment. Mais je pense que c'est assez intéressant, dans l'Apocalypse, qu'ils se joignent au chant, parce qu'ils ne peuvent louer Dieu à propos de choses qu'ils ne comprennent pas. Nous passons la plupart de notre temps à faire cela, n'est-ce pas? Pourquoi ne peuvent-ils pas le faire également? Vous vous rendez compte que nous louons Dieu pour des choses que nous ne comprenons pas, mais que les anges comprennent absolument. Pourquoi ne peuvent-ils pas louer Dieu pour les choses que nous comprenons et qu'ils ne comprennent pas? Ils aimeraient comprendre au sujet de la croix. Lisons 1 Pierre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses, qui maintenant vous sont annoncées par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle, avec l'Esprit Saint envoyé du ciel. Quelle chose! L'Évangile, dans laquelle les anges désirent plonger leur regard. Ils aimeraient regarder dans l'Évangile pour mieux le comprendre. Et je crois que dans Apocalypse 5, ils se joignent à nous dans le chant « Digne est l'agneau », même s'ils ne peuvent pas faire l'expérience de la rédemption. Ils peuvent louer Dieu pour cela. Maintenant, enfin, en rapport avec le Christ, ils sont là lors de sa seconde venue. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la Bible pour savoir cela. Regardez Acte 1, verset 11. « Les ayant quittés, montés au ciel, Jésus est parti, et les disciples sont debout sur la colline regardant vers le haut. Deux hommes en habit blanc se présentèrent à eux. Nous savons qui ils sont, des anges à nouveau. » Et le verset 11 dit « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ici, ils prédisent la seconde venue. Les anges prédisent la seconde venue. Vous voulez voir autre chose ? Non seulement ils prédisent la seconde venue, ils accompagnent la seconde venue. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Ils ont non seulement prédit, ils vont être impliqués. Et dans Jude 14, il parle de sa venue avec ses anges. Ils étaient là à sa naissance. Ils étaient là lors de sa tentation. Ils étaient là durant sa vie. Ils étaient disponibles à sa mort, mais ils ne voulaient pas d'eux. Ils étaient là lors de la résurrection. Ils étaient là lors de son ascension, annonçant qu'il reviendrait. Ils le louent maintenant, et quand il reviendra, ils seront avec lui. Ce sont des créatures importantes, les amis, ces saints anges. Et ils servent Dieu et ils servent le Christ. Troisièmement, et je vais juste commencer cette partie, mais je veux que vous voyiez quelques petites choses. Ils servent les croyants. Vous dites, John, comment servent-ils les croyants? De tant de façons. Hébreux 1, verset 14 dit « Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs, envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut? Maintenant, nous sommes les héritiers du salut, et les anges sont envoyés pour nous servir. Vous savez quelque chose d'intéressant? Saviez-vous que les anges vous aiment? Vous dites « Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire? Comment savez-vous qu'ils nous aiment? » Eh bien, si nous pouvons prendre Daniel, chapitre 10 et verset 11 et l'élargir, les anges dirent à Daniel « Daniel, bien-aimé, si un ange pouvait aimer Daniel, la seule façon que l'ange pouvait aimer Daniel, c'était parce que Dieu aimait Daniel. Et si nous pouvons supposer que les anges aiment ce que Dieu aime, alors les anges nous aiment. Et que dire, leur service nous est pas par obligation, mais par amour. Ils servent les croyants et ils nous aiment. Et quand je réfléchis à ce sujet, le fait que j'ai le Saint-Esprit en moi, qui répond à mon besoin spirituel, et que j'ai des anges autour de moi, qui prennent soin de mon être physique, c'est un peu excitant quand même. Vous dites, eh bien, comment servent-ils les chrétiens? Premièrement, et je vais vous en donner plusieurs, la première chose qu'ils font en ce qui concerne les croyants est de nous regarder beaucoup. Ils nous regardent, et ça doit être intéressant. Ils nous surveillent tout le temps. Ils veillent sur nous. Je ne pense pas que nous soyons jamais sortis de l'œil vigilant des anges. 1 Corinthiens 4, verset 9 dit « Car Dieu, il me semble, nous a exhibés, nous les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Nous avons été offerts en spectacle au monde, aux anges et aux humains. Nous sommes des spectacles pour les anges. » Le verset dit « Nous les apôtres, ils regardent les apôtres. » Vous dites « Eh bien, comment savez-vous qu'ils regardent toute l'Église ? » Comment savez-vous qu'il regarde tous les chrétiens? Éphésiens 3, verset 10. Je le lis. « Afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée, par l'Église, à la connaissance des principautés et des autorités dans les lieux célestes. Ce sont les noms des anges. Les anges nous regardent pour voir combien Dieu est plein de sagesse. Ils regardent et ils disent « Regardez ce que Dieu a fait dans cette vie. Dieu est plein de sagesse. » Et ils se tournent et le louent. Ils nous regardent pour voir les manifestations de la sagesse de Dieu afin qu'ils puissent, à leur tour, adorer et louer son nom. Les anges regardent les apôtres, ils regardent l'Église. Vous savez ce qu'ils regardent? Ils regardent en particulier les femmes. Saviez-vous cela? Vous dites de quelle façon? Eh bien, c'est assez intéressant. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 3. Vous saviez qu'il y aurait un verset pour cela, même si vous ne le souhaitiez pas. Qui dit ceci? Je veux cependant que vous le sachiez. La tête de tout homme, c'est le Christ. La tête de la femme, c'est l'homme. Et la tête du Christ, c'est Dieu. Maintenant, le chapitre parle de la soumission. Regardez le verset 10, maintenant. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité. Waouh, c'est intéressant. À cause des anges. Mais que voulez-vous dire? Les anges regardent. Nous allons étudier ce chapitre dans quelques semaines. Je prie pour que le retour du Seigneur arrive en premier. C'est un chapitre difficile, qui dit ici que les femmes doivent être soumises, essentiellement. L'idée est que les femmes doivent être soumises à leur mari, parce que les anges regardent cela. Vous dites, eh bien, si les anges regardent, que recherchent-ils? Ils recherchent à voir si vous êtes soumise. Et si je ne le suis pas, eh bien le Seigneur peut leur donner un message à vous apporter. Quelle forme cela va-t-il prendre? Je ne sais pas. Vous seul, vous pouvez le dire. Vous savez quelque chose? Si vous vous sentez mal, mesdames, vous savez qui d'autre il regarde, très précisément? Il regarde le prédicateur. Il me regarde. Maintenant, parfois, cela ne me dérange pas. Paul dit à Timothée. Timothée est un prédicateur. 1 Timothée 5, verset 21. Je te demande solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges. Obéis à ses instructions avec impartialité, sans favoriser qui que ce soit par tes actes. Cesse de boire uniquement de l'eau, mais prends un peu de vin pour faciliter ta digestion, puisque tu es souvent malade, etc., etc. Il donne tous ses commandements sur la façon d'être un prédicateur. Ancien, enseignez bien, ne muselez pas le bœuf pendant qu'il foule. Voilà, vous savez, vous devez prendre soin du prédicateur et prendre soin de ses besoins, etc. N'accusez pas un ancien. Et il poursuit avec toute cette instruction ministérielle et dit « Tu ferais mieux de bien te comporter, parce que tu fais cela devant le Seigneur Jésus-Christ et les anges élus qui regardent tout cela. Donc les anges élus me surveillent. Vous dites, eh bien, si vous n'obéissiez pas, eh bien, ils descendront probablement avec un message pour moi aussi. Et vous savez, deuxièmement, une autre chose que la Bible enseigne sur ce que les anges élus vont faire est qu'ils vont assister à la récompense des croyants. Quand nous arriverons au moment où le Seigneur va nous récompenser, apparemment, ils vont être là pour regarder et vérifier tout cela. Donc, ils vont être là. Ils nous regardent maintenant, ils regardent les apôtres dans le passé, ils regardent l'Église maintenant pour voir la sagesse de Dieu. Ils sont à la recherche de preuves de l'assujettissement de la femme à l'homme. Ils regardent le prédicateur et seront témoins de la récompense des croyants à l'avenir. Ils sont très occupés à nous regarder. Maintenant, en réponse à ce qu'ils voient, ils agissent en notre nom, en réponse à ce qu'ils savent. Ils agissent aussi. Vous dites, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, je pense que c'est important. Tout d'abord, ils révèlent la vérité. Saviez-vous que presque tout le livre de Daniel et presque tout le livre de l'Apocalypse ont été livrés par des anges? Ils ne l'écrivent pas. Ils ne sont pas les auteurs. C'est Dieu. Le Saint-Esprit en est l'inspiration. Mais ce sont les agents qui les livrent. Maintenant, les anges révèlent la parole pour nous. Je me hâte d'ajouter quelque chose, afin que vous ne soyez pas confus. La seule chose que nous savons que les anges ont livrée est ici. Donc, si quelqu'un arrive et dit « J'ai rencontré un ange l'autre jour et il m'a donné un message. Soyez vigilants. Les anges ont livré cette parole uniquement. Très bien. Alors les anges regardent et les anges révèlent. » Troisièmement, et ceci est très beau, dans la vie d'un croyant, les anges guident. Et je pense ici qu'ils prennent une position très physique pour guider le croyant, d'accord? Je ne pense pas que ce soit interne et spirituel comme pour l'esprit. Je pense qu'ils vous attrapent par l'oreille et vous tirent dans une direction ou une autre quand c'est nécessaire. Par exemple, Philippe avait une grande réunion. C'était plein à craquer. De grandes foules en Samarie, il prêchait. Des choses fantastiques se passaient. Il y avait la confrontation avec Simon le magicien et il prêchait. Il disait aux gens de se repentir. Et il passait un super moment. Et tout d'un coup, verset 26. Et l'ange du Seigneur dit à Philippe, « Va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. » Maintenant, cet ange vient l'interrompre et lui dit, « Vous savez, cette réunion qui est programmée, annule-la. Je sais qu'il y a une grande foule, il y a beaucoup de choses, Dieu veut que tu ailles à Gaza. Vous savez quelle aurait été ma réaction? Gaza, c'est le désert. Bon, voilà. Ce que je viens de dire, c'est le désert. Pourquoi voulez-vous que j'y aille? La Bible ne le dit pas. Elle dit seulement qu'il faut aller. Et, ce qui est étonnant, pour vous donner l'esprit de Philippe au verset 27, il se leva et partit. Comment est-il allé? Eh bien, c'est intéressant. Apparemment, il est arrivé au bon endroit. Voici un homme d'Éthiopie qui passe. Philippe est assis là, dans le désert, à regarder son cadran solaire en se disant « Eh bien, je ne suis pas trop sûr de comprendre ce qui se passe. » Un homme d'Éthiopie vient, un eunuque de grande autorité, et il a cette conversation merveilleuse. Et Philippe l'amène à Christ. Comme c'est excitant! Un ange guide Philippe littéralement dans un lieu de service pour le Seigneur. Le chapitre 10 des Actes est intéressant. Il y avait un homme nommé Corneille, un homme pieux, verset 3. Un ange de Dieu est entré chez lui pour lui dire « Corneille ». Il le fixa et, saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes actes de compassion sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. » Et l'ange lui a donné le message, l'a guidé, lui a dit exactement ce qu'il fallait faire. Plus tard, dans le chapitre 11, la même chose se produit, verset 13. Celui-ci nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter chez lui en disant « Envoie quelqu'un à Joppé, cherchez Simon surnommé Pierre, etc. qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. » Alors les anges ont été utilisés à nouveau pour guider. Dans les deux cas, cependant, les détails de l'évangile sont venus par le Saint-Esprit. Dans le cas de Philippe et dans le cas de Corneille, les anges sont les guides des croyants. Maintenant, écoutez. Une partie du travail d'un guide, et je pense que vous devez réaliser cela, une partie de son travail est de corriger. Quand le Seigneur nous guide, il peut nous fouetter un peu pour nous faire rentrer en ligne. Et dans 2 Samuel, je prendrai juste une seconde pour vous montrer cela. Dans 2 Samuel, verset 24, le Seigneur se mit à nouveau en colère contre Israël. Il incita David contre eux, en disant « Va, dénombre Israël et Juda. Ici, c'est le grand péché de David. Il va compter combien son armée est forte, non pas en fonction de Dieu, mais à cause du nombre de personnes qu'il a dans son armée. Alors il les compte. » Verset 10, David sentit battre son cœur après qu'il eut compté ainsi le peuple. David dit au Seigneur, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Seigneur, pardonne, je te prie, la faute que j'ai commise, moi, ton serviteur, car j'ai agi tout à fait stupidement. » Il comptait sur sa propre puissance militaire plutôt que sur Dieu. Verset 13. Gad arriva chez David et lui dit, « Qu'est-ce qui doit arriver? 7 années de famine dans ton pays? 3 mois de fuite devant tes adversaires qui te poursuivent? Ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Vous avez un choix. Vous pouvez avoir 7 années de famine, 3 mois d'ennemis qui vous courent après, ou vous pouvez avoir 3 jours de peste. Lequel choisiriez-vous? Je choisirai le plus court, n'est-ce pas? » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande détresse. Laisse-nous, je te prie, tomber aux mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas aux mains des hommes. » Le Seigneur fit venir la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Bersabée. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Je ne sais pas combien de femmes et d'enfants. Et écoutez, comment est-ce arrivé? Comme le messager étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, le Seigneur regretta ce malheur. Il dit au messager destructeur qui était parmi le peuple, « Cela suffit. Ici, Dieu a dû envoyer un ange pour prendre la vie. Le serviteur de Dieu châtie David. » Alors les anges regardent. Les anges révèlent. Les anges guident. Permettez-moi de vous donner autre chose, puis nous reprendrons ici la prochaine fois. Les anges pourvoient. Ils pourvoient dans un sens physique. Agar, dans Genèse 21, avait besoin de nourriture. Les anges ont pourvu. Un beau passage. Et nous avons déjà parlé de cela, alors nous ne le ferons pas à nouveau. Mais dans le psaume 78, nous lisons à propos de la provision angélique pour Israël. Lisons au verset 23. Il donna des ordres aux nuages d'en haut. Il ouvrit les portes du ciel. Et c'est le désert, errant. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour qu'ils mangent. Il leur donna le blé du ciel. Vous saviez que c'est ce qu'ils ont mangé dans le désert? Les gens disent, qu'est-ce que la manne? C'est le gâteau alimentaire des anges. Voilà ce que c'était. La nourriture des anges. C'est assez intéressant. Les anges étaient à nouveau les agents qui distribuaient de la nourriture physique. J'aime cette histoire. J'aime cet homme, Élie. 1 Roi 19, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Pauvre Élie, qui vient vaincre tous les prêtres de Baal, a entendu qu'une femme voulait l'attraper et il a paniqué. Il est sorti hors de la ville. Et Dieu n'a jamais voulu qu'un prophète de 80 ans court comme ça. Et il a manqué d'énergie et s'est arrêté sous un arbre. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit, maintenant Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Verset 4. J'en ai marre. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Il avait besoin de dormir parce qu'il était trop vieux pour courir comme ça. Ce n'est pas bon. Il dormait et soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda. Il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Certains aliments sont fantastiques. Il y a le vieux Élie, et Dieu lui envoie son ange, qui lui tape sur l'épaule et lui donne tout ce dont il a besoin. Maintenant, mes amis, les anges nous regardent. Ils ont, dans le passé, révélé la vérité de Dieu. Ils nous guident à l'endroit où, le cas échéant, ils accomplissent un acte de châtiment. Et quand Dieu les envoie pour répondre à nos besoins, il prévoit pour nous. C'est seulement le début, et si vous revenez la prochaine fois, nous verrons la suite. Prions. Notre Père, nous savons que tout le monde n'a pas le ministère des anges. Certains d'entre nous qui connaissent et aiment le Fils, qui connaissent et aiment le Seigneur Jésus-Christ, bénéficient du ministère des anges maintenant. Il en existe d'autres dans le monde qui vont voir les anges quand ils viendront pour le jugement, pour mener à bien les ordres d'exécution du Dieu de l'univers. Nous savons que Jésus-Christ viendra avec une vengeance enflammée pour juger avec ses anges. Nous savons que l'apôtre Paul a dit que lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges, de sa puissance dans une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont destinés au châtiment seront punis avec une destruction éternelle de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Je suis si heureux, Père, qu'au lieu d'avoir à faire face aux anges comme bourreaux, les anges surveillent ma vie, prennent soin de moi, même, car tu les as envoyés en tant que serviteurs à ceux qui sont les héritiers du salut. Tu as placé ton Saint-Esprit en moi pour me guider de l'intérieur, tes anges pour me guider physiquement. Et je voudrais prier pour que toute personne que tu aimes et pour qui tu es mort, qui est ici ce soir, et qui ne connaît pas ton ministère dans leur vie, le ministère de ton Esprit, le ministère de tes anges, mais plutôt vont voir ce jour terrible où les anges viendront comme des bourreaux. Que cela n'arrive pas. Nous te remercions de t'être sacrifié sur la croix en la personne de Jésus-Christ. Tu as porté nos péchés et, de ce fait, par la foi en lui et son œuvre, nous vivons dans le lieu de la bénédiction éternelle. C'est ma prière ce soir, Seigneur, que s'il y a une personne au milieu de nous qui n'a jamais reçu Jésus-Christ et qui n'a jamais connu le fait d'avoir tout cet univers d'être spirituel pour la servir, que cela puisse être le cas pour elle ce soir, parce qu'elle va mettre sa foi en Jésus-Christ. Nous prions en son nom. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.